Nicolas Boileau, Le Lutrin, poème héroïque-comique, chant premier. Je chante les combats, et ce prélat terrible qui par ses longs travaux et sa force invincible, dans une illustre église exerçant son grand cœur, fit placer à la fin un lutrin dans le cœur. C'est en vain que le chantre, abusant d'un faux titre, deux fois l'en fit ôter par les mains du chapitre. Ce prélat, sur le banc de son rival altier, deux fois le reportant, l'en couvrit tout entier. Muse, redis-moi donc, quelle ardeur de vengeance de ces hommes sacrés rompit l'intelligence, et troubla si longtemps de célèbres rivaux, tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots. Et toi, fameux héros, dont la sage entremise de ce schisme naissant débarrassa l'Église, viens d'un regard heureux admirer mon projet et garde-toi de rire en ce grave sujet. Paris voyait fleurir son antique chapelle. Ses chanoines vermeils et brillants de santé s'engraissaient d'une longue et sainte oisiveté. Sans sortir de leur lit plus doux que des hermines, ces pieux fainéants faisaient chanter matine, veillaient à bien dîner et laissaient en leur lieu à des chantres gagés le soin de louer Dieu. Quand la discorde, encore toute noire de crimes, sortant des cordeliers pour aller au minime, avec cet air hideux qui fait frémir la paix, s'arrêta près d'un arbre au pied de son palais. Là, d'un œil attentif contemplant son empire, à l'aspect du tumulte, elle-même s'admire. Elle y voit, par le coche et d'Évreux et du Mans, accourir à grands flots ses fidèles Normands. Elle y voit aborder le marquis, la comtesse, le bourgeois, le manant, le clergé, la noblesse, et partout des plaideurs, des escadrons épars, faire autour de Thémis flotter ses étendards. Mais une église seule, à ses yeux immobiles, garde au sein du tumulte une assiette tranquille. Elle seule la brave, elle seule au procès de ses paisibles murs veut défendre l'accès. La discorde, à l'aspect d'un calme qui l'offense, fait siffler ses serpents, s'excite à la vengeance. Sa bouche se remplit d'un poison odieux et de longs traits de feu lui sortent par les yeux. « Quoi ? » dit-elle d'un ton qui fit trembler les vitres. J'aurais pu jusqu'ici brouiller tous les chapitres, divisés hors cordeliers, carmes et célestins. J'aurais fait soutenir un siège aux Augustins, et cette église seule, à mes ordres rebelles, nourrira dans son sein une paix éternelle. Suis-je donc la discorde, et parmi les mortels, qui voudra désormais encenser mes autels ? Assez beau, d'un bonnet couvrant sa tête énorme, elle prend d'un vieux chantre et la taille et la forme. Elle peint de bourgeon son visage guerrier et s'en va de ce pas trouver le trésorier. Dans le réduit obscur d'une alcôve enfoncée s'élève un lit de plumes à grands frais amassés. Quatre rideaux pompeux, par un double contour, en défendent l'entrée à la clarté du jour. Là, parmi les douceurs d'une tranquille silence, règne sur le duvet une heureuse indolence. C'est là que le prélat, muni d'un déjeuner, dormant d'un léger somme, attendait le dîner. La jeunesse en sa fleur brille sur son visage, son menton sur son sein descend à double étage, et son corps ramassé dans sa courte grosseur fait gémir les coussins sous sa molle épaisseur. La déesse, en entrant, qui voit la nappe mise, admire un si bel ordre et reconnaît l'église. Et marchant à grands pas vers le lieu du repos, au prélat sommeillant, elle adresse ces mots. « Tu dors, prélat, tu dors, et là-haut, à ta place, le chantre aux yeux du cœur étale son audace, chante les orémus, fait des processions, et répand à grands flots les bénédictions. Tu dors, mais attends-tu donc que, sans bulle et sans titre, il te ravisse encore le rocher et la mitre ? Sors de ce lit oiseux qui te tient attaché, et renonce au repos, ou bien à l'évêché. » Elle dit, et du vent de sa bouche profane, lui souffle avec ses mots l'ardeur de la chicane. Le prélat se réveille et, plein d'émotion, lui donne toutefois la bénédiction. Tel qu'on voit un taureau qu'une guêpe en furie a piqué dans les flancs aux dépens de sa vie, le superbe animal agité de tourments exhale sa douleur en longs rugissements. Tel le fougueux prélat que ce songe épouvante, querelle en se levant et laquais et servante, et d'un juste courroux rallumant sa vigueur, même avant le dîner parle d'aller au cœur. Le prudent gilotin, son aumônier fidèle, en vain par ses conseils sagement le rappelle, lui montre le péril que midi va sonner, qu'il va faire s'il sort refroidir le dîner. Mais que le fureur, dit-il, quel aveugle caprice, quand le dîner est prêt, vous appelle à l'office. De votre dignité, soutenez mieux l'éclat. Est-ce pour travailler que vous êtes prêt là? À quoi bon ce dégoût et ce zèle inutile? Est-il donc pour jeûner quatre temps ou vigile? Reprenez vos esprits et souvenez-vous bien qu'un dîner réchauffé ne valut jamais rien. Ainsi dit Gilotin. Et ce ministre sage, sur table au même instant, fit servir le potage. Le prélat voit la soupe et, plein d'un saint respect, demeure quelque temps muet à cet aspect. Il cède, dîne enfin. Mais, toujours plus farouche, les morceaux trop hâtés se pressent dans sa bouche. Gilotin en frémit et, sortant de fureur, chez tous ses partisans va semer la terreur. On voit courir chez lui leurs troupes éperdues, comme l'on voit marcher les bataillons de grues, quand le pygmée altier, redoublant ses efforts, de l'Ebre ou du Styrbon vient occuper les bords. À l'aspect imprévu de leur foule agréable, le prélat radouci veut se lever de table. La couleur lui renaît, sa voix change de ton. Il fait par Gilotin rapporter un jambon. Lui-même, le premier, pour honorer la troupe, d'un vin pur et vermeil, il fait remplir sa coupe. Il l'avale d'un trait, et, chacun l'imitant, la cruche au large ventre et vide en un instant. Sitôt que du nectar, la troupe est abreuvée, on dessert, et, soudain, la nappe est enlevée, le prélat, d'une voix conforme à son malheur, leur confie en ces mots sa trop juste douleur. Illustre compagnon de mes longues fatigues, qui m'avez soutenu par vos pieuses ligues, et par qui, maître enfin d'un chapitre insensé, seul à Magnificat je me vois encensé, souffrirez-vous toujours qu'un orgueilleux outrage, que le chantre à vos yeux détruise votre ouvrage, usurpe tous mes droits, et, s'égalant à moi, donne à votre lutrin et le ton et la loi? Ce matin même encore, ce n'est prêt à mensonge, une divinité me l'a fait voir en songe. L'insolent, s'emparant du fruit de mes travaux, a prononcé pour moi le Benicat Vos. Oui, pour mieux m'égorger, il prend mes propres armes. Le prélat, à ces mots, verse un torrent de larmes. Il veut, mais vainement, poursuivre son discours. Ses sanglots redoublés en arrêtent le cours. Le zélé Gilotin, qui prend part à sa gloire, pour lui rendre la voix, fait rapporter à boire. Quand Sidrae, à qui l'âge allonge le chemin, arrive dans la chambre un bâton à la main. Ce vieillard, dans le cœur, a déjà vu quatre âges. Il sait de tous les temps les différents usages. Et son rare savoir de simple marguillier l'éleva par degrés au rang de chevalier. À l'aspect du prélat, qui tombe en défaillance, il devine son mal, il se rit, il s'avance, et d'un ton paternel réprimant ses douleurs. « Laisse au chantre, dit-il, la tristesse et les pleurs, prélat, et pour sauver tes droits et ton empire, écoute seulement ce que le ciel m'inspire. » Vers cet endroit du cœur où le chantre orgueilleux montre assis à ta gauche un front si sourcilleux, sur ce rendez serré qui forme sa clôture, fut jadis un lutrin d'inégale structure, dont les flancs élargis de leurs vastes contours ombrageaient pleinement tous les lieux d'alentour. Derrière ce lutrin, ainsi qu'au fond d'un antre, à peine sur son banc on discernait le chantre, tandis qu'à l'autre banc, le prélat radieux, découvert au grand jour, attirait tous les yeux. Mais un démon fatal à cette ample machine, soit qu'une main la nuit eût hâté sa ruine, soit qu'ainsi de tout temps l'ordonna le destin, fit tomber à nos yeux le pupitre un matin. J'eus beau prendre le ciel, et le chantre à partie, il fallut l'emporter dans notre sacristie, où depuis 30 hivers, sans gloire enseveli, il languit tout poudreux dans un honteux oubli. Entends-moi donc, prélat, dès que l'ombre tranquille viendra d'un crêpe noir envelopper la ville, il faut que 3 de nous, sans tumulte et sans bruit, partent à la faveur de la naissante nuit, et du lutrin rompu, réunissant la masse, aillent d'un zèle adroit le remettre en sa place. Et si le chantre demain ose le renverser, alors de 100 arrêts tu peux le terrasser, pour soutenir tes droits. Que le ciel autorise, abîme tout plutôt, c'est l'esprit de l'Église, c'est par là qu'un prélat signale sa vigueur. Ne borde pas ta gloire à prier dans un cœur. Ces vertus dans Alette peuvent être en usage, mais dans Paris, plaidons, c'est là notre partage. Tes bénédictions, dans le trouble croissant, tu pourras les répandre, et par vin et par sang, et pour braver le chantre en son orgueil extrême, les répandre à ses yeux et le bénir lui-même. Ce discours aussitôt frappe tous les esprits, et le prélat, charmé, l'approuve par des cris. Il veut que sur le champ, dans la trompe, on choisisse les 3 que Dieu destine à ce pieux office. Mais chacun prétend part à cet illustre emploi. Le sort, dit le prélat, vous servira de loi, que l'on tire un billet creux que l'on désire. Il dit, on obéit, on se presse d'écrire. Aussitôt 30 noms sur le papier tracé sont au fond d'un bonnet par billets entassés. Pour tirer ces billets avec moins d'artifice, Guillaume, enfant de cœur, prête sa main novice. Son front nouveau, tondu, symbole de grandeur, rougit en approchant d'une honnête pudeur. Cependant le prélat, l'œil au ciel, la main nue, bénit 3 fois les noms et 3 fois les rebuts. Il tourne le bonnet, l'enfant tire, et Brontin est le premier des noms qu'on apporte l'estin. Le prélat en conçoit un favorable augure, et ce nom dans la troupe excite un doux murmure. On se tait, et bientôt on voit paraître au jour le nom, le fameux nom du perruquier L'Amour. Ce nouvel Adonis, à la blonde crinière, est l'unique souci d'Anne, sa perruquière. Ils s'adorent l'un l'autre, et ce couple charmant s'unit longtemps, dit-on, avant le sacrement. Mais, depuis 3 moissons, à leur saint assemblage, l'official a joint le nom du mariage. Ce perruquier superbe est l'effroi du quartier, et son courage est peint sur son visage altier. Un des noms reste encore, et le prélat, par grâce, une dernière fois les brouille et les ressasse. Chacun croit que son nom est le dernier des 3. Mais que ne dis-tu point, ô puissant porte-croix, bois rude, sacristain, cher appui de ton maître, lorsqu'aux yeux du prélat tu vis ton nom paraître? On dit que de ton front jaune et ton teint sans couleur perdit en ce moment son antique pâleur, et que ton corps goutteux, plein d'une ardeur guerrière, pour sauter au plancher fit 2 pas en arrière. Chacun bénit tout haut l'arbitre des humains, qui remet leur bon droit en de si bonnes mains. Aussitôt on se lève, et l'assemblée en foule, avec un bruit confus, par les portes s'écoule. Le prélat resté seul, calme un peu son dépit, et jusque au souper se couche et s'assoupit. Chant second. Cependant, cet oiseau qui prône les merveilles, ce monstre composé de bouches et d'oreilles, qui sans cesse volant de climats en climats, dit partout ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas, la renommée, enfin, cette prompte courrière, va d'un mortel effroi glacer la perruquière, lui dit que son époux, d'un faux aile conduit, pour placer un lutrin, doit veiller cette nuit. À ce triste récit, tremblante, désolée, elle accourt l'œil en feu, la tête échevelée, et trop sûre d'un mal qu'on pense lui sceller. « Oses-tu bien encore, traître, dissimuler ?» dit-elle. « Et ni la foi que ta main m'a donnée, ni nos embrassements qu'a suivi l'hyménée, ni ton épouse, enfin toute prête à périr, ne serait donc t'ôter cette ardeur de courir, perfide ? Si du moins, à ton devoir fidèle, tu veillais pour orner quelque tête nouvelle, l'espoir d'un juste gain, consolant ma langueur, pourrait de ton absence adoucir la longueur. Mais quel zèle indiscret, quelle aveugle entreprise arme aujourd'hui ton bras en faveur d'une église ? Où vas-tu, cher époux ? Est-ce que tu me fuis ? As-tu oublié tant de si douces nuits ? Quoi, d'un œil sans pitié, vois-tu couler mes larmes ? Au nom de nos baisers jadis si pleins de charme, si mon cœur de tout temps, facile à tes désirs, n'a jamais d'un moment différé tes plaisirs, si pour te prodiguer mes plus hautes caresses, je n'ai point exigé ni serment ni promesse, si toi seul à mon lit enfin eus toujours part, diffère au moins d'un jour ce funeste départ. » En achevant ces mots, cette amante enflammée sur un placé voisin tombe demi-panée. Son époux s'en émeut et son cœur est perdu entre deux passions, demeure suspendu. Mais enfin, rappelant son audace première, « Ma femme, lui dit-il d'une voix douce et fière, je ne veux point nier les solides bienfaits dont ton amour prodigue à combler mes souhaits, et le Rhin de ses flots ira grossir la Loire avant que tes faveurs sortent de ma mémoire. Mais ne présume pas qu'en te donnant ma foi, l'hymen ne m'est pour jamais asservi sous ta loi. Si le ciel en mes mains eût mis ma destinée, nous aurions fui tous deux le joug de l'hyménée. Et sans nous opposer ces devoirs prétendus, nous goûterions encore des plaisirs défendus. Cesse donc à mes yeux d'étaler un vain titre, ne m'ôte pas l'honneur d'élever un pupitre. Et toi-même, donnant un frein à tes désirs, raffermis la vertu qu'ébranle tes soupirs. Que te dirai-je enfin ? C'est le ciel qui m'appelle. Une église, un prélat m'engageant sa querelle. Il faut partir. J'y cours, dissipe tes douleurs, et ne me trouble plus par ces indignes pleurs. » Il la quitte à ces mots. Son amante effarée demeure le teint pâle et la vue égarée. La force l'abandonne, et sa bouche, trois fois voulant le rappeler, ne trouve plus de voix. Elle fuit et ne pleure sinon dans son visage, seule pour s'enfermer vole au cinquième étage, mais d'un bouge prochain, courant à ce bruit, sa servante Alisson la rattrape et la suit. Les ombres, cependant, sur la ville épandue, du faîte des maisons descendent dans les rues. Le souper hors du cœur chasse les chapelains, et de chantres buvant les cabarets sont pleins. Le redouté Brontin, que son devoir éveille, sort à l'instant, chargé d'une triple bouteille, d'un vin dont Gilotin, qui savait tout prévoir, au sortir du conseil eut soin de le pourvoir. L'odeur d'un jus si doux lui rend la faim moins rude. Il est bientôt suivi du sacristain Boisrude, et tous deux de ce pas s'en vont avec chaleur du trop lent perruquier réveiller la valeur. « Partons, lui dit Brontin, déjà le jour plus sombre dans les eaux s'éteignant va faire place à l'ombre. D'où vient ce noir chagrin que je lis dans tes yeux ? Quoi ? Le pardon sonnant te retrouve en ces lieux ? Où donc est ce grand cœur dont tantôt l'allégresse semblait du jour trop long accuser la paresse ? Marche et suis-nous du moins où l'honneur nous attend ? » Le perruquier honteux rougit en l'écoutant. Aussitôt de longs clous il prend une poignée, Sur son épaule, il charge une lourde cognée, et derrière son dos, qui tremble sous le poids, il attache une scie en forme de carquois. Il sort au même instant. Ils se mettent à leur tête, à suivre ce grand chef, l'un et l'autre s'apprêtent. Leur cœur semble allumé d'un zèle tout nouveau. Brontin tient un maillet et Boirut d'un marteau. La lune, qui du ciel voit leur démarche altière, retire à leur faveur sa paisible lumière. La discorde en sourit, et les suivants des yeux, de joie en les voyant, poussent un cri dans les cieux. L'air, qui gémit du cri de l'horrible déesse, va jusque dans sitôt réveiller la mollesse. C'est là qu'en un dortoir elle fait son séjour. Les plaisirs nonchalants folâtrent alentour. L'un pétrit dans un coin l'embonpoint des chanoines, l'autre broie en riant le vermillon des moines. La volupté la serre avec des yeux dévots, et toujours le sommeil lui verse des pavots. Ce soir, plus que jamais, en vain il les redouble. La mollesse, à ce prix, se réveille, se trouble. Quand la nuit, qui déjà va tout envelopper d'un funeste récit, vient encore la frapper, lui conte du prélat l'entreprise nouvelle. Au pied des murs sacrés d'une sainte chapelle, elle a vu trois guerriers, ennemis de la paix, marcher à la faveur de ses voiles épais. La discorde en ces lieux menace de s'accroître. Demain, avec l'horreur, un lutin va paroître, qui doit y soulever un peuple de mutins. Ainsi, le ciel l'écrit au livre des destins. À ce triste discours qu'un long soupir achève, la mollesse, en pleurant, sur un bras se relève, ouvre un œil languissant et, d'une faible voix, laisse tomber ces mots qu'elle interrompt 20 fois. Ô nuit, que m'as-tu dit? Quel démon sur la terre souffle dans tous les cœurs la fatigue et la guerre? Hélas, qu'est devenu ce temps, cet heureux temps, où les rois sonneraient du nom de fainéants, s'endormaient sur le trône, et me servant sans honte, laissaient leur sceptre aux mains d'un maire ou bien comte? Aucun soin n'approchait de leur paisible cour. On reposait la nuit, on dormait tout le jour. Seulement au printemps, quand flore dans les plaines faisait taire des vents les bruyantes haleines, 4 bœufs attelés d'un pas tranquille et lent promenaient dans Paris le monarque indolent. Ce doux siècle n'est plus. Le ciel impitoyable a placé sur le trône un prince infatigable. Il brave mes douceurs, il est sourd à ma voix. Tous les jours il m'éveille du bruit de ses exploits. Rien ne peut arrêter sa vigilante audace. L'été n'a point de feu, l'hiver n'a point de glace. J'entends à son seul nom tous mes sujets frémir. En vain 2 fois la paix a voulu l'endormir. Loin de moi, son courage, entraîné par la gloire, ne se plaît qu'à courir de victoire en victoire. Je me fatiguerai de te tracer le cours des outrages cruels qu'il me fait tous les jours. Je croyais, loin des lieux où ce prince m'exile, que l'Église du moins m'assurait un asile. Mais qu'en vain j'espérais y régner sans effroi. Moine, abbé, prieur, tous s'arment contre moi. Par mon exil honteux, la trappe est ennoblie. J'ai vu dans Saint-Denis la réforme établie. La carme, le feuillant, s'endurcit aux travaux. Et la règle déjà se remet en Clairvaux. Sitôt dormait encore, et la sainte chapelle conservait du vieux temps l'oisiveté fidèle. Et voici qu'un lutrin, prêt à tout renverser, d'un séjour si chéri vient encore me chasser. Ô toi, de mon repos, compagne aimable et sombre, à de si noirs forfaits prêteras-tu ton ombre? Ah, nuit, si tant de fois, dans les bras de l'amour, je t'admis au plaisir que je cachais au jour, du moins ne permets pas. La mollesse oppressée dans sa bouche à ce mot, sans sa langue glacée. hélas, le parler, succombant sous l'effort, soupire, étend les bras, ferme l'œil et s'endort. Chant troisième. Mais la nuit aussitôt de ses ailes affreuses couvre des bourguignons les campagnes vineuses, revole vers Paris et attend son retour, déjà de Montlhéry voit la fameuse tour. Ses murs, dont le sommet se dérobe à la vue, sur la cime d'un roc s'allongent dans la nue, et présentant de loin leurs objets ennuyeux, le passant qui le fit semble suivre des yeux. Mille oiseaux effrayants, mille corbeaux funèbres, de ces murs désertés habitent les ténèbres. Là, depuis 30 hivers, un hibou retiré trouvait contre le jour un refuge assuré. Des désastres fameux, ce messager fidèle, c'est toujours des malheurs la première nouvelle, et, tout près d'en semer le présage odieux, il attendait la nuit dans ces sauvages lieux. Au cri qu'à son abord vers le ciel il envoie, il rend tous ses voisins attristés de sa joie. La plaintive prenait de douleur en frémit, et dans les bois prochains Philomèle en gémit. « Suis-moi, lui dit la nuit. » L'oiseau, plein d'allégresse, reconnaît à ce ton la voix de sa maîtresse. Il la suit, et tous deux, d'un cours précipité, de Paris à l'instant, abordent la cité. Là, s'élançant d'un vol que le vent favorise, ils montent au sommet de la fatale église. La nuit baisse la vue et, du haut du clocher, observe les guerriers, les regarde marcher. Elle voit le barbier qui, d'une main légère, tient un verre de vin qui rit dans la fougère. Et chacun, tour à tour, s'inondant de ce jus, célébrait en riant Gilotin et Bacchus. Il triomphe, dit-elle, et le rame abusé se promet dans mon ombre une victoire aisée. Mais allons, il est temps qu'il connaisse la nuit. À ces mots, regardant le hibou qui la suit, elle perce les murs de la voûte sacrée. Jusqu'à la sacristie, elle s'ouvre une entrée, et dans le ventre creux du pupitre fatal, va placer de ce pas le sinistre animal. Mais les trois champignons, pleins de vin et d'audace, du palais cependant passent la grande place, et suivant de Bacchus les auspices sacrés, de l'auguste chapelle ils montent les degrés. Ils atteignaient déjà le superbe portique où Ribou, le libraire, au fond de sa boutique, sous vingt fidèles clés, garde et tient en dépôt l'amas toujours entier des écrits de Hainaut. Quand Boisrude, qui voit que le péril approche, les arrête, et tirant un fusil de sa poche, des veines d'un caillou qu'il frappe au même instant, il fait jaillir un feu qui pétille en sortant. Et bientôt, au brasier d'une mèche enflammée, montre, à l'aide du soufre, une cire allumée. Cet astre tremblotant dont le jour les conduit est pour eux un soleil au milieu de la nuit. Le temple à sa faveur est ouvert par Boisrade. Il passe de la nef la vaste solitude et dans la sacristie, entrant non sans terreur, en perçant jusqu'au fond la ténébreuse horreur. C'est là que du lutrin gît la machine énorme. La troupe quelque temps en admire la forme, mais le barbier, qui tient les moments précieux, « Ce spectacle n'est pas pour amuser nos yeux, dit-il. Ce temps est cher, portons-le dans le temple. » C'est là qu'il faut demain qu'un prélat la contemple. Et d'un bras à ces mots, qui peut tout ébranler, lui-même, se courbant, s'apprête à le rouler. Mais à peine il y touche, ô prodige incroyable, que du pupitre sort une voix effroyable. Brontin en est ému, le sacristain pâlit. Le perruquier commence à regretter son lit. Dans son hardi projet, toutefois, il s'obstine. lorsque les flancs poudreux de la vaste machine, l'oiseau sort en courroux et d'un cri menaçant achève d'étonner le barbier frémissant. De ses ailes dans l'air secouant la poussière, dans la main de bois rude il éteint la lumière. Les guerriers, à ce coup, demeurent confondus. Ils regagnent la nef de frayeur éperdue. Sous leurs coups tremblotants, leurs genoux s'affaiblissent. D'une subite horreur, leurs cheveux se hérissent. Et bientôt, au travers des ombres de la nuit, le timide escadron se dissipe et s'enfuit. Ainsi, lorsqu'en un coin qui leur tient lieu d'asile, d'écoliers libertins, une troupe docile, loin des yeux d'un préfet, au travail assidu, va tenir quelquefois un brelan défendu. Si du vaillant Argas, la fatigue effrayante, dans l'ardeur du plaisir à leurs yeux se présente, le jeu cesse à l'instant, l'asile est déserté, et tout fit à grands pas le tyran redouté. La discorde, qui voit leur honteuse disgrâce, dans les airs, cependant, tonne, éclate, menace, et malgré la frayeur dont leurs cœurs sont glacés, s'apprête à réunir ses soldats dispersés. Aussitôt de Sidrac, elle emprunte l'image. Elle rit de son front, allonge son visage, sur un bâton noueux laisse courber son corps, dont la chicane semble animer les ressorts, prend un cierge en sa main, et d'une voix cassée, vient ainsi gourmander la troupe terrassée. Lâche, où fuyez-vous? Quelle peur vous abat? Au cri du vil oiseau, vous cédez sans combat? Où sont ces beaux discours, jadis si pleins d'audace? Craignez-vous d'un hibou la puissante grimace? Que feriez-vous, hélas, si quelque exploit nouveau, chaque jour comme moi, vous traînait au barreau? S'il fallait, sans amis, brigant une audience, d'un magistrat glacé soutenir la présence, ou d'un nouveau procès, hardi solliciteur, abordé sans argent, un clerc de rapporteur. Croyez-moi, mes enfants, je vous parle à bon titre. J'ai moi seul autrefois plaidé tout un chapitre, et le barreau n'a point de monstre si égard, dont mon œil n'ait cent fois soutenu les regards. Tous les jours, sans trembler, j'assiégeais leur passage. L'église était alors fertile en grand courage. Le moindre d'entre nous, sans argent, sans appui, eût plaidé le prélat et le chantre avec lui. Le monde, de qui l'âge avance les ruines, ne peut plus enfanter de ses âmes divines. Mais que vos cœurs, du moins, imitant leurs vertus, de l'aspect d'un hibou ne soient pas abattus. Songez, quel déshonneur va souiller votre gloire, quand le chantre demain entendra sa victoire. Vous verrez tous les jours le chalois insolent, au seul mot de hibou, vous sourire en parlant. Votre âme a ce penser de colère murmure. Allez donc de ce pas en prévenir l'injure. Méritez des lauriers qui vous sont réservés, et ressouvenez-vous quel prélat vous servez. Mais déjà la fureur dans vos yeux étincelle. Marchez, courez, volez où l'honneur vous appelle. Que le prélat, surpris d'un changement si prompt, apprenne la vengeance aussitôt que l'affront. En achevant ces mots, la déesse guerrière, de son pied traçant l'air un sillon de lumière, rend aux trois champignons leur intrépidité et les laisse tout pleins de sa divinité. C'est ainsi, grand Condé, qu'en ce combat célèbre, où ton bras fit trembler le Rhin, l'Escaut et l'Èbre, lorsqu'aux plaines de Lens nos bataillons poussés furent presque à tes yeux ouverts ou renversés, ta valeur, arrêtant les troupes fugitives, rallia d'un regard leur cohorte craintive, répandit dans leur rang ton esprit belliqueux et força la victoire à te suivre avec eux. La colère à l'instant succédant à la crainte, ils rallument le feu de leurs bougies éteintes. Ils rentrent. L'oiseau sort. L'escadron raffermi rit du honteux départ d'un si faible ennemi. Aussitôt dans le cœur la machine emportée est sur le banc du chantre à grand bruit remontée. Ses ais demi-pourris que l'âge a relâchés sont à coups de maillets unis et rapprochés. Sous les coups redoublés, tous les bancs se retentissent. Les murs en sont émus, les voûtes en mugissent. Et l'orgue même en pousse un long gémissement. Que fais-tu, chantre, hélas, dans ce triste moment? Tu dors d'un profond somme, et ton cœur sans alarme ne sait pas qu'un bâti l'instrument de tes larmes. Oh, que si quelque bruit par un heureux réveil t'annonçait du lutrin le funeste appareil! Avant que de souffrir qu'on en posât la masse, tu viendrais en apôtre expiré dans ta place, et martyr glorieux d'un point d'honneur nouveau, offrir ton corps au clou et ta tête au marteau. Mais déjà, sur ton banc, la machine enclavée est, durant ton sommeil, à ta honte élevée. Le sacristain achève en deux coups de rabot, et le pupitre, enfin, tourne sur son pivot.
Chant quatrième. Les cloches dans les airs de leurs voix argentines appelaient à grand bruit les chantres à matines, quand le chef, agité d'un sommeil effrayant, encore tout en sueur, se réveille en criant. Aux élans redoublés de sa voix douloureuse, tous ses valets tremblants quittent la plume oiseuse. Le vigilant Giraud court à lui le premier. C'est d'un maître si saint le plus digne officier. La porte dans le cœur à sa garde est commise, valet souple au logis, fier huissier à l'église. Quel chagrin, lui dit-il, trouble votre sommeil? Quoi, voulez-vous au cœur prévenir le soleil? Ah, dormez, laissez à des chantres vulgaires le soin d'aller sitôt mériter leur salaire. Ami, lui dit le chantre encore pâle d'horreur, n'insulte point de grâce à ma juste terreur. Mêle plutôt ici tes soupirs à mes plaintes et tremble en écoutant le sujet de mes craintes. Pour la seconde fois, un sommeil gracieux avait sous ses pavots appesanti mes yeux, quand, l'esprit enivré d'une douce fumée, j'ai cru remplir au cœur ma place accoutumée. Là, triomphant aux yeux des chantres impuissants, je bénissais le peuple et j'avalais l'encens. Lorsque, du fond caché de notre sacristie, une épaisse fumée à long flot est sortie, qui, s'ouvrant à mes yeux dans un bleuâtre éclat, m'a fait voir un serpent conduit par le prélat. Du corps de ce dragon, plein de soufre et de mitre, une tête sortait en forme de pupitre, dont le triangle affreux, tout hérissé de crin, surpassait en grosseur nos plus épais lutrins. Animé par son guide, en sifflant il s'avance. Contre moi, sur mon banc, je le vois qui s'élance. J'ai crié, mais en vain. Et fuyant sa fureur, oh, je me suis réveillé, plein de trouble et d'horreur. Le chantre, s'arrêtant à cet endroit funeste, à ses yeux effrayés, laisse dire le reste. Giraud en vain l'assure, et riant de sa peur, nomme sa vision l'effet d'une vapeur. Le désolé vieillard, qui est la raillerie, lui défend de parler, sort du lit en furie. On apporte à l'instant ses somptueux habits, où sur l'ouate molle éclate le tabis. D'une longue soutane, il endosse la moire, prend ses gants violets, les marques de sa gloire, et saisit en pleurant ce rocher qu'autrefois le prélat trop jaloux lui rogna de trois doigts. Aussitôt, d'un bornet ornant sa tête grise, déjà l'humus en main, il marche vers l'église, et attend de 16 ans l'importune langueur, court, vol, et le premier arrive dans le cœur. Ô toi, qui sur ces bords qu'une eau dormante mouille, vis combattre autrefois le rat et la grenouille, qui par les traits hardis d'un bizarre pinceau mit l'Italie en feu pour la porte d'un seau, muse, prête à ma bouche une voix plus sauvage. pour chanter le dépit, le colère, la rage que le chantre sentit allumer dans son sang, à l'aspect du pupitre élevé sur son banc. D'abord, pâle et muet, de colère immobile, à force de douleur, il demeura tranquille. Mais sa voix, s'échappant au travers des sanglots, dans sa bouche à la fin fit passage à ces mots. « La voilà donc, Giraud, cette hydre épouvantable que m'a fait voir un songe, hélas, trop véritable. Je le vois, ce dragon tout prêt à m'égorger, ce pupitre fatal qui me doit ombrager. Prélat, que t'ai-je fait? Quelle rage envieuse rend pour me tourmenter ton âme ingénieuse? Quoi, même dans ton lit cruel, entre deux draps, ta profane fureur ne se repose pas? Ô ciel, quoi? Sur mon banc, une honteuse masse désormais va me faire un cachot de ma place? Inconnu dans l'église, ignoré dans ce lieu, je ne pourrai donc plus être vu que de Dieu? Ah, plutôt qu'un moment cet affront m'obscurcisse, renonçons à l'autel, abandonnons l'office, et sans lasser le ciel par le chant superflu, ne soyons plus un cœur où l'on ne vous voit plus. Sortons. Mais cependant mon ennemi tranquille jouira sur son banc de ma rage inutile, et verra dans le cœur le pupitre exaucé tourner sur le pivot où sa main l'a placé. Non, s'il n'est abattu, je ne saurais plus vivre. À moi, Giraud, je veux que mon bras l'en délivre. Périssons s'il le faut, mais de ces airs brisés, entraînons, en mourant, les restes divisés. À ces mots, d'une main par la rage affermie, il saisissait déjà la machine ennemie. Lorsqu'en ce sacré lieu, par un heureux hasard, entre Jean le choriste et le sonneur Girard, d'où manceau renommé, en qui l'expérience pour les procès est jointe à la vaste science. L'un et l'autre aussitôt prend part à son affront. Toutefois, condamnant un mouvement trop prompt du lutrin, disait-il, abattons la machine, mais ne nous chargeons pas tout seuls de sa ruine, et que tantôt, aux yeux du chapitre assemblé, il soit sous 30 mains en plein jour accablé. Ces mots des mains du chantre arrachent le pupitre. J'y consens, leur dit-il, assemblons le chapitre. Allez donc de ce pas, par de saints hurlements, vous-même appelez les chanoines dormants. Partez. Mais ce discours les surprend et les glace. Nous, quand ce vain projet, plein d'une folle audace, nous allions, dit Girard, la nuit nous engager. De notre complaisance, osez-vous l'exiger? Eh, Seigneur, quand nos cris pourraient, du fond des rues, de leurs appartements percer les avenues, réveiller ces valets autour d'eux étendus, de leur sacré repos aux ministres assidus, et pénétrer des lits aux bruits inaccessibles, pensez-vous, au moment que les ombres paisibles à ces lits enchanteurs ont su les attacher, que la voix d'un mortel les en puisse arracher? Deux chantres feront-ils, dans l'ardeur de vous plaire, ce que depuis 30 ans 6 cloches n'ont pu faire? Ah, je vois bien où tend tout ce discours trompeur, reprend le chaud vieillard. Le prélat vous fait peur. Je vous ai vu 100 fois, sous sa main bénissante, courber servilement une épaule tremblante. Eh bien, allez, sous lui fléchissez les genoux. Je saurais réveiller les chanoines sans vous. Viens, Giraud, seul ami qui me reste fidèle. Prenons du Saint-Jeudi la bruyante crécelle. Suis-moi. Qu'à son lever le soleil aujourd'hui trouve tout le chapitre éveillé devant lui. Il dit. Du fond poudreux d'une armoire sacrée, par les mains de Giraud, la crécelle est tirée. Ils sortent à l'instant, et par d'heureux efforts, du lugubre instrument font crier les ressorts. Pour augmenter l'effroi, la discorde infernale monte dans le palais, entre dans la grande salle, et du fond de cet antre, au travers de la nuit, fait sortir le démon du tumulte et du bruit. Le quartier alarmé n'a plus Dieu qui sommeille. Déjà de toutes parts les chanoines s'éveillent. L'on croit que le tonnerre est tombé sur les toits et que l'église brûle une seconde fois. L'autre, encore agité de vapeurs plus funèbres, pense être jeudi saint, croit que l'on dit ténèbres, et déjà tout confus, tenant midi sonné, en soi-même frémi de n'avoir point dîné. Ainsi, lorsque tout prêt à briser sans muraille, Louis, la foudre en main, abandonnant Versailles, au retour du soleil et des zéphyrs nouveaux, fait dans les champs de Mars dépouiller les drapeaux, au seul bruit répandu de sa marche étonnante, le Danube s'émeut, le Tage s'épouvante, Bruxelles attend le coup qui la doit foudroyer, et le Batave encore est prêt à se noyer. Mais en vain, dans leur lit, un juste effroi les presse. Aucun ne laisse encore la plume enchanteresse. Pour les en arracher, Giraud, s'inquiétant, va crier qu'au chapitre un repas les attend. Oh, ce mot dans tous les cœurs répand la vigilance. Tout s'ébranle, tout sort, tout marche en diligence. Ils courent au chapitre, et chacun se pressant flatte d'un doux espoir son appétit naissant. Mais, oh, d'un déjeuner vaine et frivole attente, à peine ils sont assis, que d'une voix dolente, le chantre désolé, lamentant son malheur, fait mourir l'appétit et naître la douleur. Le seul chanoine Évrard, d'abstinence incapable, ose encore proposer qu'on apporte la table. Mais il a beau presser, aucun ne lui répond. Quand le premier rompant ce silence profond, Alain tousse et se lève. Alain, ce savant homme, qui de Boni 20 fois a lu toute la somme, qui possède Abélie, qui sait tout Raconis, et même entend, dit-on, le latin da Kempis. N'en doutez point, leur dit ce savant canoniste, c'est coupard, j'en suis sûr, d'une main janséniste. Mes yeux en sont témoins, j'ai vu moi-même hier entrer chez le prélat le chapelain Garnière. Arnaud, cet hérétique ardent à nous détruire, par ce ministre adroit, tente de le séduire. Sans doute il aura lu dans son Saint-Augustin qu'autrefois Saint-Louis érigea ce lutrin. Il va vous inonder les torrents de sa plume. Il faut pour lui répondre ouvrir plus d'un volume. Consultons sur ce point quelque auteur signalé. Voyons si des lutrins bonis n'a point parlé. Étudions enfin, il en est temps encore. Et pour ce grand projet, tantôt, dès que l'aurore allumera le jour dans l'onde ensevelie, que chacun prenne en main le moelleux Abélie. Ce conseil imprévu de nouveau les étonne. Surtout le grand Évrard d'épouvante en frissonne. Moi, dit-il, qu'à mon âge, écolier tout nouveau, j'ai eu pour un lutrin me troubler le cerveau. Oh, le plaisant conseil! Non, non, songeons à vivre. Va maigrir, si tu veux, et sécher sur un livre, pour moi. Je lis la Bible autant que l'Alcoran. Je sais ce qu'un fermier pour nous doit rendre parent, sur quelle vie à Reims. Nous avons hypothèque, 20 muits rangés chez moi pour ma bibliothèque, en plaçant un pupitre au coin d'où abaisser. Mon bras seul, sans latin, sera le renverser. Que m'importe Carnot me condamne ou m'approuve, jamais ce qui me nuit partout où je le trouve. C'est là mon sentiment, à quoi bon temps d'après? Du reste, déjeunons, messieurs, et buvons frais. Ce discours que soutient l'embonpoint du visage rétablit l'appétit, réchauffe le courage. Mais le chantre surtout en paraît rassuré. Oui, dit-il, le pupitre a déjà trop duré. Allons sur sa ruine assurer ma vengeance. Donnons à ce grand œuvre une œuvre d'abstinence et qu'au retour, tantôt, un ample déjeuner et longtemps nous tienne à table et s'unisse au dîner. Aussitôt il se lève, et la troupe fidèle, par ses mots attirants, sans redoubler son zèle. Il marche droit au cœur d'un pas audacieux, et bientôt le lutrin se fait voir à leurs yeux. À ce terrible objet, aucun d'eux ne consulte sur l'ennemi commun. Ils font le temps tumulte, ils sapent le pivot qui se défend en vain. Chacun sur lui d'un coup veut honorer sa main. Enfin, sous tant d'efforts, la machine succombe, et son corps entr'ouvert chancelle, éclate et tombe. Tel sur les monts glacés des farouches gélons tombe un chêne battu des voisins Aquilons, ou tel, abandonné de ses poutres usées, font enfin un vieux toit sous ses tuiles brisées. La masse est emportée, et ses ailes arrachées sont aux yeux des mortels chez le chantre caché.